En sol majeur vous propose cette rediffusion.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Il marche sur l'eau du monde, René de Pestre, comme un prophète des toutes premières révolutions. Né sur la terre de Jacmel en 1926, une première fois en Haïti, une seconde fois en poésie, il s'est fait autant d'amis que d'ennemis en produisant poèmes, romans, essais. Dès 1956, il écrit « Moi, nègre, inconnu dans la foule, moi, un brin d'herbe solitaire et sauvage, je le crie à mon siècle. Il n'y aura de joie pour l'homme » que dans un pur rayonnement de l'homme par l'homme, un fier élan de l'homme vers son destin. Sur sa route d'idéaliste sauvage, il croise Castro, Che Guevara, Jorge Amado, André Breton, Aimé Césaire, bref, tous ceux qui rêvent le monde. Grande figure de la négritude, prix Renaudot 1988 pour Adriana dans tous mes rêves, ce jeune homme de 91 ans publie ses mémoires intitulées « Bonsoir tendresse », une belle occasion de lui dire bonjour, tout un week-end en sol majeur, dans sa maison du sud de la France. Bonjour et bonjour.
Bonjour.
René de Pestre.
Bonjour.
Merci de nous accueillir dans votre maison de Lézignan-Corbière. On n'est pas loin de Narbonne pour en sol majeur dans le sud de la France. Dans cette maison bien nommée Villa Adriana.
Villa Adriana.
Elle est incroyable, votre maison.
Oui, et c'est pour ça que je l'ai achetée, parce que un jour je me promenais avec ma femme et je venais d'arriver à Lézignan. Et puis on s'est arrêté devant le portail, on a dit quelle maison, mais elle n'était pas à vendre et je n'avais pas encore les moyens de l'acquérir. Et puis j'ai eu le prix Renaudot qui m'a rapporté beaucoup d'argent, près d'un million de francs, et ça m'a permis de l'acheter parce qu'en passant lors d'une autre promenade, on a vu à vendre.
Et comment vous la décririez de l'extérieur, cette maison ?
On la
croirait sortie tout droit d'un conte.
Sortie d'un conte en Floride. C'est une maison qui a un aspect romain en même temps, à cause des colonnes. C'est bien parce que pendant longtemps, j'ai vécu à l'hôtel, pendant des années. Je n'ai jamais pu vraiment installer mes livres. J'avais une bibliothèque de près de 10 000 volumes. Et pour la première fois, j'ai pu avoir tous mes livres autour de moi.
Absolument.
Comme vous voyez.
On est dans votre bureau et oui. Je ne sais pas combien il y a de livres autour de vous, une bibliothèque impressionnante, des photographies de Che Guevara qu'on évoquera, Aimé Césaire derrière vous, une citation qui dit « L'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sûrs d'eux et les gens sensés pleins de doutes ».
C'est vrai. Et puis je mets que aussi, pour être sur la terre, j'ai des pieds qu'il faut donner aux bonnes nouvelles de la tendresse. L'aile de l'enfance. Mon passé est descendu de l'arbre où il dormait. Mon passé me prend par la main. Voici la rue où je suis né, dans un cercueil de bois noir. Mon passé a envie de crier, mais sa langue a les ailes coupées. Mon passé a soudain les larmes aux yeux, à voir que je suis plus enfant que mon enfance.
C'est comme chevaux de bois.
Alors, René de Pestre, est-ce que votre enfance haïtienne a croisé des chevaux de bois dans le Jacmel des années 30-40?
Des chevaux de bois? Ah oui, il y avait des compagnies qui venaient de France, il y avait des chevaux de bois. C'était une des joies de mon enfance.
Qu'est-ce qu'il y avait dans votre Jacmel, sinon ?
Oh, il y avait de tout dans mon Jacmel. D'abord, la poésie de Jacmel elle-même. Et c'est une ville qui est au bord d'un golfe. Et quand, dans mon enfance, mon père nous réveillait très tôt le matin, rien que pour aller voir le lever du soleil sur le golfe. Et mon père disait que c'était notre cinéma du petit matin, parce que la veille, on avait le film de Charlot. Donc on avait Charlot le soir et l'émerveillement du golfe au petit matin.
Cela dit, ce n'est pas le nom des chevaux qui vous a marqué dans votre enfance, mais plutôt le nom des oiseaux. Les oiseaux charpentiers.
Les oiseaux charpentiers, les malfinis, les Madame Sarah, les colibris, les oiseaux mouches, des tourterelles, des pintades. Il y avait toutes sortes d'oiseaux, c'était extraordinaire.
Que raconte votre arbre généalogique ?
Ah, mon arbre généalogique, vous savez, vous n'allez pas croire. Et je descends de comte belge qui possède un château à Namur. J'étais d'ailleurs, j'étais très bien reçu dans ce château comme descendant de ces Belges qui avaient des propriétés à Saint-Domingue à l'époque. Et donc, il a fait l'amour avec une esclave, et d'où est sorti mes arrière-grands-pères.
Donc, seulement des origines belges dans cet arbre ?
Alors, bon, il y a les origines africaines naturellement, mais on n'a pas la généalogie de l'Afrique parce qu'il n'y avait pas de code civil à l'époque. Mais je sais que nous descendons de famille de près de Bordeaux. Ma grand-mère s'appelait Leblanc, Célia Leblanc. Et mon grand-père, qui était un général, c'était le général Solon Auriol. Vous voyez ? Et le Auriol est plutôt catalan. Donc on a une origine extrêmement créole, extrêmement mélangée.
Je sais aussi que vous avez été marqué par une grand-mère qui avait une conception un peu stricte de la domesticité.
Ah oui, ma grand-mère était implacable. Je crois que ma révolte, la révolte qu'on trouve aujourd'hui dans mes livres, vient de là.
C'est-à-dire ?
Parce que ma grand-mère avait 2-3 enfants et elle m'avait interdit de jouer avec eux. C'était des enfants de mon âge et qu'elle faisait travailler. Et moi, je me suis rebellé. J'ai eu des conflits très graves avec ma grand-mère.
Un peu esclavagiste, votre grand-mère.
C'était un peu esclavagiste. Mais ça vient de l'esclavage. C'est une forme d'esclavage qui existe encore en Haïti. Donc, ma première révolte, j'ai écrit un long poème, d'ailleurs, à ce sujet. Qui a
consacré à une jeune reste avec.
À une jeune reste avec.
Qu'est-ce que c'est qu'une reste avec ?
Reste avec veut dire domestique. Et elle mangeait à table avec nous, elle nous racontait des contes, elle nous apprenait à danser. Elles ont enchanté mon enfance. Et même ma révolte est sortie de là.
Est-ce que pour en sol majeur, vous nous diriez alors un extrait de ce poème consacré à cette Reste avec ? C'est un poème qui s'intitule « Face à la nuit ».
Celle qui avait grandi autour d'un lopin planté de pois Congo. Celle qui avait étendu son royaume de sentiers en sentiers, de collines en collines, de hameau en hameau, jusqu'à la ville voisine. Et parce qu'elle était née sous la grand-roue dans les bras du soleil, et parce qu'elle avait grandi autour de la chaumière perchée sur la colline, et parce qu'elle avait grandi autour des lopins plantés de pois Congo, et parce qu'elle avait étendu son royaume de sentiers en sentiers, de collines en collines, de hameau en hameau, jusqu'à la ville de Jacmel, bafouée, trahie, jour et nuit, avilie, abandonnée à la rue. Elle est morte un samedi soir de son métier sans envers ni endroit, de ce métier qui emporte la vie comme la mer emporte le sable.
Dieu prendra soin de toi.
B.
Dieu prendra soin de toi.
Amen.
Dans
Il
le prendra soin de toi.
La fin.
Tous les jours jusqu'à la
B comme Bible.
Comment t'appelles-tu ? Quel est ton nom ?
Grâce à Dieu.
Grâce à Dieu.
Est-ce que vous avez grandi avec la Bible, René de Pestre ?
Avec la Bible ? Oui, sans doute. Ma grand-mère lisait la Bible, elle était une femme extrêmement religieuse qui assistait au Verbe le dimanche après-midi, qui m'emmenait avec elle. Il y avait de très beaux chants grégoriens et ça me plaisait beaucoup.
Donc vous étiez un peu écartelé entre l'éducation religieuse que souhaitait votre grand-mère Chélia pour vous et votre mère Dianira.
Et elle voulait absolument qu'on soit éduqués dans le vaudou aussi, parce que c'était notre héritage africain. Elle tenait beaucoup à nous initier aux traditions africaines, donc il fallait commencer par le vaudou. Ma grand-mère n'aimait pas parce que ma grand-mère était très pro-française, elle était française d'origine, donc elle disait que ça nous éloignait de la culture française. Mais maintenant, on pouvait en faire la synthèse entre l'Afrique et la France.
Donc votre mère a suivi, vous le racontez bien dans vos mémoires, elle a suivi à la lettre le calendrier liturgique vaudou.
Oui.
Et donc vous avez assisté enfant à de vraies cérémonies.
Ah, oui. Oui, j'ai assisté à de vraies cérémonies. C'était la nuit dans la montagne où elle nous emmenait.
Et de quoi vous vous souvenez par exemple?
Je me souviens des bains qui avaient des odeurs extraordinaires parce qu'on nous faisait prendre un bain rituel avec des feuilles d'oranger, avec des feuilles de toutes sortes de plantes qui avait une forte odeur. On faisait bouillir ses feuilles. Et puis après, dans l'eau tiède, il y avait le ongan, c'est-à-dire le sacerdoce vaudou, qui nous massait le corps. Nous étions tous nus à 3 heures du matin en train de prendre un bain rituel. C'était extraordinaire. Nous étions au cœur même de la liturgie vaudou. Les gens prenaient loi, comme on disait, c'est L-O-A.
L'esprit.
C'est-à-dire un esprit descendait dans leur tête. Il arrivait à ma mère elle-même d'avoir un esprit et de danser comme une déesse du vaudou.
Votre mère disait, elle avait cette formule que je crois vous avez gardée toute votre vie, René de Pestre, il faut garder deux fers au feu.
Ah oui, c'est ce que j'ai toujours fait. Par exemple, dans mon cas, les deux fers au feu, on a commencé par le vaudou et le catholicisme, la langue créole et la langue française, Haïti et la France, Sciences Po et la Sorbonne. Et on peut continuer comme ça, vous trouverez toujours au moins deux fers au feu. Il n'y a pas eu que deux, parce que parfois j'ai eu plusieurs fers au feu. J'ai eu la négritude, j'ai eu le surréalisme, j'ai eu le marxisme et d'autres feux encore, n'est-ce pas?
Il n'y avait pas de dilemme dans votre tête,
dans mon tête il
entre
avait
le
pas
dogme
de...
catholique, par exemple, et tout ce qui était rite, vaudou.
Non, le vaudou, pas du tout. Quand j'ai abandonné le catholicisme, j'ai abandonné le vaudou aussi en même temps.
Vous avez tout abandonné.
Je ne peux pas dire même que je suis un agnostique. Je suis a-religieux, a-privatif. Vous voyez, j'ai éliminé le sacré chrétien ou le sacré vaudou, je les ai éliminés de ma vie. Au profit d'un autre sacré, un sacré érotique.
On y reviendra.
On y reviendra si vous voulez. Oui, oui, oui.
Alors vous abordez la question du vaudou dès ce roman avec Adriana dans Tous mes rêves.
Oui.
Votre héroïne Adriana, qui est une blanche française, il faut que je le dise, elle meurt le jour même de son mariage avec Hector, qui est un haïtien. Et cette mort est une énigme dont va s'emparer l'univers vaudou.
Oui, parce que la zombification, jusqu'ici en Haïti, il n'y avait jamais de blanc zombifié, vous voyez. Ça restait entre les noirs. Dans la métaphysique vaudou, l'être humain est composé de deux éléments. Le petit bon ange et le gros bon ange. Un sorcier peut séparer, peut vous enlever le petit bon ange et le garde dans une bouteille. Et le gros bon ange qui reste dans la personne est apte à travailler. Donc, est réduit en esclavage. C'est un mythe de l'esclavage, finalement, la zombification. C'est ce qui est arrivé aux Africains. On leur a enlevé leur petit bon ange qu'on a gardé dans une bouteille de l'esclavage et de la colonisation, n'est-ce pas? Et puis on a laissé le gros bon ange pour faire les travaux sur les plantations, n'est-ce pas? Mais jamais un blanc ou une blanche a été victime de la zombification. Ça restait un phénomène.
Jusqu'à René de Pestre.
Alors moi, pour rompre avec cela, j'ai voulu faire zombifier Adriana. Mais la blanche s'est révoltée. N'est-ce pas? J'ai voulu montrer aussi que ce n'est pas une fatalité d'être zombie. On peut se révolter.
Mais quel est le message pour les Haïtiens?
Le message, c'est que le monde est un. voyez, on peut être zombifié aussi, même si on est blanc, parce qu'on pensait que les blancs sont puissants, sont forts, échappent. On est exposé au même danger dans une vie sociale haïtienne. Depuis des semaines, les gens ne juraient que par une nuit de bombance et de folie. Allaient-ils se contenter d'une veillée policée, moyennement animée à la manière des blancs français? Ensuite, où devait-on exposer le corps de la mariée? Au salon des Siloés? À la salle des fêtes de l'hôtel communal ou à celle de la préfecture? Pourquoi ne pas l'exposer sur la place, sous les arbres centenaires de l'allée des amoureux? Suggéra mon oncle Ferdinand. L'idée me paraît excellente, dit Maître Omer. Une vierge mariée qui appartient à l'ordre des étoiles doit être veillée à ciel ouvert, tout près des nids d'oiseaux. Qu'en pensez-vous? André et Denise Siloé acquiescèrent de la tête, absents. Maître Omer, dit Madame Losange, vient de faire allusion à la virginité de la défunte. Dans le cas de mort comme celle-ci, la première mesure à prendre n'est-elle pas de déflorer proprement la victime? Qui va s'en charger? Mon oncle Ferdinand essaya avec doigté d'évacuer l'indélicate question.
Si j'ose dire, avec cet extrait d'Adriana dans Tous mes rêves, René de Pestre, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Mais là, est-ce qu'on est dans un véritable rite vaudou, cette défloration d'un cadavre?
Oui, c'est une règle du vaudou. Quand quelqu'un est zombifié, on a des doutes sur l'origine de la mort. Si c'est une jeune fille, il faut la déflorer pour couper de l'air, si on peut dire, sous les pieds du sorcier.
Est-ce que, ou en quoi plutôt, le vaudou a valeur de civilisation pour vous?
Ah, valeur de civilisation parce que c'est une croyance, c'est une foi d'origine africaine qui a été pratiquée et qui est pratiquée encore au Bénin et dans beaucoup de pays d'Afrique, donc qui concerne la civilisation africaine. Le vaudou lui-même est connu en Afrique comme le vaudoun. On dit vaudoun, et il y a plusieurs rites. Il y a les rites Ewe, il y a le rite Fon, il y a le rite Congo, il y a plusieurs rites. Donc c'est une forme de croyance qui est commune à beaucoup d'ethnies africaines.
Donc très loin du rite tel qu'il est pratiqué en Haïti.
Ah oui, parce qu'en Haïti, l'héritage religieux africain a été créolisé. Il y a l'influence de la vie plantationnaire. La plantation est là, vous comprenez? Les danses, la musique et tout ça a été inventé sur la plantation par les esclaves. C'était leur forme de divertissement par excellence.
Est-ce que Toto Bicente, que vous aimez, René de Pestre, peut rentrer dans cette danse du vaudou?
Ah oui, Toto, c'est une femme très proche du vaudou. Elle est pathétique pour exprimer à la fois les malheurs et les joies du peuple haïtien.
Papa loco, où c'est vent, où c'est l'allée, nous c'est papillon, la beauté nouvelle, Bayagoué. Papa loco, où c'est vent, où c'est l'allée, nous c'est papillon, la beauté nouvelle, Bayagoué. Et tout ça qui dit bien, j'aime l'ailleurs. Et tout ça qui dit mal, oh, j'aime la yeah, papa loco, où c'est vrai, où c'est n'allé, où c'est papillon, la beauté nouvelle, Bayagoué. Papa loco. Et tout ça qui dit bien.
Un Papa Loco version Toto Bicente sur RFI dans un ensol majeur installé pour tout un week-end chez le poète romancier René de Pestre. On est dans sa maison de Lézignan-Corbière et dans une rediffusion aussi. Lézignan-Corbière au sud de la France, une grande maison aux colonnades romaines, recouverte de lianes et de ronces, endormie, un peu comme dans un célèbre conte de fées. Et notre prince charmant haïtien errant est là, dans son bureau, entouré de livres et de photos. Ici, le Che, là, Aimé Césaire. À 91 ans, il taquine toujours la muse, s'offre même des fous rires en poursuivant la femme jardin de sa plume érotique. Et nous, dans cette rediffusion, en disant « Bonjour René de Pestre », on continue d'ouvrir « Bonsoir tendresse », son autobiographie intellectuelle où il évoque son passé de rebelle, anticolonialiste à Paris et anticommuniste à Cuba.
Haïti à la dérive. Voici mon pays garni de dents et de pointes. Pays barbelé de pied en cap, monde noir de la rage et du rire amer des Haïtiens. Haïti sans dimanche, au bout de ses peines, le grand malheur a dompté, volcan endormi, sans réveil prévu, à l'horloge de ses cendres.
Je n'avais pas d'argent et j'avais toutes les forces réactionnaires contre moi. L'armée, le clergé, la haute finance, la bourgeoisie, toutes ses forces. Je suis venu avec mon bulletin de vote. Le paysan, le peuple, les 4/5 de la nation m'ont élu président de la République. C'est même une légende. Mais une légende qui s'explique aisément parce que la nation vraie, c'est dans le peuple. Le peuple, c'est moi et je suis le peuple.
Exil.
Un peu de papadoc pour évoquer ce climat de dictature que vous avez connu. Vous, c'était à l'époque du président Lescaut. Il faut raconter cet épisode qui a provoqué votre premier exil haïtien. C'est l'épisode de La Ruche, un hebdo que de jeunes lettrés du lycée de Pétion montent de 1945 à 1946. C'est-à-dire que vous étiez une bande de jeunes énervés avec des soucis patriotiques ?
Oui, on avait des soucis, disons, patriotiques, des soucis, peut-être plus précisément, civiques.
C'est C'est-à-dire bon,
C'est-à-dire qu'on voulait une république, parce que c'était une pseudo-république, et on voulait qu'il y ait un civisme dans la société haïtienne. Il n'y en avait pas du tout. Donc on était des jeunes, on était encore au lycée quand on a commencé à penser à faire un journal contestataire. À ce moment-là, on a pensé qu'il fallait aussi utiliser le surréalisme, parce que Breton allait venir en Haïti, donc on voulait l'accueillir avec un journal.
Mais alors, pourquoi d'abord ce titre, La Ruche ?
Alors, La Ruche, parce que la plupart des journaux de l'opposition étaient interdits. Donc il fallait qu'on arrive à convaincre les autorités de la censure que c'était un journal d'enfants. On allait faire voler des abeilles.
Et ça a marché.
Et ça a marché. En plus, on portait encore des culottes courtes, n'est-ce pas? Donc ça a marché. Le président a été très furieux qu'on nous ait donné l'autorisation de faire un journal.
Quelles étaient vos cibles en particulier?
Bon, on a attaqué, on a descendu en flammes l'église, l'armée, la famille, tout ce qui était conventionnel, tout ce qui appartenait à la prétendue élite mulâtre, la plupart du temps, qui possédait les terres du pays, qui exportait le sucre, le café et d'autres denrées coloniales.
Mais alors dans cette aventure de La Ruche, tout coince autour d'un numéro précis intitulé « Vive l'insurrection nationale ».
Vive l'insurrection nationale. Entre nous, on se demandait quel titre mettre dans un numéro qui était consacré à André Breton. On voulait rendre un hommage exceptionnel au surréalisme et à André Breton, mais on voulait un sous-titre incendiaire.
C'était vous une déclaration de guerre.
Une déclaration de guerre au régime, en pleine dictature, vive l'insurrection nationale, et ça a débouché sur une insurrection nationale.
Grève générale.
Grève générale, tout est bloqué. Nous étions dans les rues, on s'est battu avec la police, on avait des cocktails Molotov. Une sorte de mai 68 avant la lettre aux Antilles, aux Caraïbes.
Arrestation du président Lescot.
Et puis nous étions en train de discuter avec le président parce qu'il nous a invités à venir le voir dans sa résidence privée au manoir des Lauriers. Et on lui a dit qu'on ne venait pas de discuter avec lui. On venait lui demander de partir sur le champ. Et pendant qu'on était en train de discuter, de convaincre le président qu'il devait partir, l'armée a débarqué dans la pièce. Le haut état-major de l'armée haïtienne est venu arrêter le président pour que ce ne soit pas nous qui renversions le président. Non. Ils ont voulu couper de l'herbe sous nos pieds. Et moi, je suis allé au siège de l'état-major de l'armée et il y avait 45 000 personnes rassemblées sous le balcon. Et j'ai pris la parole et j'ai harangué une foule énorme. J'ai soulevé la population contre le régime et contre les militaires eux-mêmes qui venaient de prendre le pouvoir.
Et donc à ce moment-là, vous devenez en même temps le mouton noir de cette révolution.
Et puis les Américains nous ont découverts aussi, donc ils ne savaient pas qu'il y avait une jeunesse contestataire. On pensait que nous étions contrôlés par Moscou, alors qu'on n'avait aucun contact. On admirait l'Union soviétique parce qu'on sortait de la Deuxième Guerre mondiale. Donc on était pro-soviétique, naturellement, comme la plupart des gens à l'époque.
Et contre la colonisation américaine qui était là depuis 1915.
Mais nous n'étions pas communistes. Mais on avait des idées assez confuses. On était des jeunes démocrates, disons. On n'était pas dans une idéologie d'extrême gauche qu'on ne connaissait pas encore. Moi, je faisais mes premières lectures de Lénine et de Trotsky, mais c'était pas notre idéologie. Nous étions des catholiques, d'ailleurs.
En tout cas, le jeune poète démocrate que vous êtes à ce moment-là se retrouve expulsé d'Haïti.
Ils se sont arrangés pour qu'on pacte.
On est obligé de résumer cette vie multiple que vous avez eue, hein, René de Pestre. Oui. Vous allez donc passer rapidement par Paname.
Arrivé à Paris, Aimé Césaire lui-même est venu m'attendre à la gare Saint-Lazare et m'a présenté au grand dirigeant du Parti communiste français. J'ai connu Thorez, j'ai connu Duclos, Garaudy. Donc j'ai repris à Paris mes activités anticolonialistes et je suis devenu un leader étudiant au Quartier Latin. Et je rencontrais les Vietnamiens à ce moment-là, les Marocains, les gens du Maghreb, les Malgaches, etc. Un beau matin, on est venu me dire que j'avais 48 heures pour quitter la France. Et j'avais comme ami Paul Éluard, Aragon, Tristan Tzara, etc. Je les ai consultés et Éluard avait un grand ami qui était ambassadeur de Tchécoslovaquie à Paris. il a obtenu un droit d'asile pour moi.
Vous voilà donc en Tchécoslovaquie, où le jeune marxiste en herbe que vous êtes découvre, sans vous mentir, ce qui à l'époque est difficile, la dictature du prolétariat. À quel moment, de quelle manière, surtout René de Peste, vous comprenez que Staline est le plus grand des papadocs?
Je comme vous disait Claude Roy.
Non, mais je cite Claude Roy.
Claude Roy me disait que le plus grand des papadocs, c'est Staline, et que les gens du KGB sont des tontons macoutes blancs. Moi, j'ai découvert tout de suite que ça n'allait pas. J'avais fait Sciences Po. Et je suis remonté jusqu'à Héraclite, jusqu'à Démocrite, jusqu'aux origines grecques du marxisme, en passant par l'encyclopédie, par Diderot. Et j'ai tout de suite compris que ce n'était pas la dictature du prolétariat. C'était la dictature d'un groupe d'hommes, les dirigeants du Parti communiste, sur le prolétariat, sur le parti et sur la société dans son ensemble. Et j'ai commencé à critiquer le personnel dirigeant tchécoslovaque, à dire que c'était un terrorisme d'État.
Mais dans cette Tchécoslovaquie, vous découvrez aussi le racisme.
Ah oui, également, parce que il disait que mon mariage avec Edith était un mariage blanc, que c'était les policiers de Paris qui avaient concocté ce mariage pour introduire Edith, pour introduire la juive en Tchécoslovaquie, et que nous n'étions pas un vrai couple. C'était du racisme pur et simple, parce qu'ils ne concevaient pas qu'un jeune noir soit marié avec une très belle jeune fille hongroise. On a fini par nous expulser de Tchécoslovaquie. Donc, en 1952, j'étais expulsé de France et de Tchécoslovaquie, des deux côtés du rideau de fer.
J comme juif errant.
Auriez-vous quelque chose du juif errant, René de Pestre?
Oui, je pensais toujours au juif errant parce que je suis moi-même un haïtien errant.
Dans le mythe du juif errant, il est question de survie, celui qui erre et celui qui revient de la mort. C'est comme ça que vous vous sentez?
Ah oui, je revenais de la mort, je revenais des persécutions que nous avons connues, de régimes très différents. J'ai eu mal à partir avec les sbires de Batista, qui était le dictateur de Cuba. Après, j'ai eu des difficultés au Brésil. J'ai dû prendre un autre nom. Je me faisais appeler Walter Miranda, parce que je militais dans la clandestinité avec Amado.
Mais alors, vous avez été avec Jorge Amado,
oui,
vous avez été son secrétaire?
J'ai été son secrétaire, après j'étais secrétaire de Neruda, à Santiago du Chili.
C'est-à-dire qu'entre un Neruda et un Amado, ou un Borges aussi, que vous croisez,
aussi, oui,
vous découvrez que le communisme qui craint en fait les hommes de culture, oui, a eu en son sein de très grands hommes de culture.
Oui, mais on n'avait aucune fiance. J'ai eu une discussion une fois avec un professeur de la Sorbonne qui me disait que nous aurions dû, en tant qu'intellectuels, agir dans le parti. Mais on n'avait pas voix au chapitre. Il y avait un ouvriérisme de bas étage. C'est ça qui a perdu le communisme. C'est l'ouvriérisme policier qui n'a pas donné de voix au chapitre aux intellectuels, pas même à Picasso ou à Aragon. Quand ils ont publié un portrait de Staline par Picasso dans les lettres françaises, la direction du parti a fait tout un tabac avec cela. On a failli même expulser Aragon du Parti communiste à ce moment-là.
La cami rincón.
Majeur, toujours dans le sud de la France, sur RFI, à Lézignan-Corbière, dans la maison du grand poète René de Pestre, qui est assis sagement en face de moi dans son bureau, entouré d'une bibliothèque impressionnante et de traces de vie tout aussi impressionnantes. On n'est là ni dans votre Haïti d'origine, ni en Tchécoslovaquie, où vous avez aussi fait vos armes politiques, ni au Brésil. On est à Cuba avec un certain Benny Moré.
Benny Moré, c'est peut-être l'un des musiciens les plus extraordinaires de Cuba. Dans les années du début de la révolution, lui-même il était révolutionnaire, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et sa musique l'est également.
Hay que hablar de un orden real y objetivo que todos comprendan.
No se puede hablar de paz.
No he venido aquí como profeta de la revolución.
En nombre de decenas de millones de seres humanos.
No he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente.
No se puede hablar de paz.
Hemos venido a hablar de paz.
900 millones de analfabetos.
Y colaboración entre los pueblos.
La explotación de los países pobres.
Y hemos venido a advertir.
Debe cesar.
Que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico.
Como revolución.
Fidel Castro ne nous en voudra pas de citer ce beau proverbe haïtien, le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme, René de Pestre. Et c'est un proverbe que le révolutionnaire viscéral que vous avez été a malmené et même contredit. Libérer l'homme noir du joug de toutes les anciennes colonies espagnoles, est-ce que c'était au fond l'un de vos buts ?
Ah oui, c'était l'un de mes buts. Quand je suis arrivé à Cuba en 1959, ma principale préoccupation est de voir comment Fidel Castro allait traiter le problème noir. J'avais été déjà à Cuba en 1952, j'avais été expulsé, mais je savais que le racisme était très présent dans la vie quotidienne des Cubains. C'était un pays qui s'acheminait directement vers un racisme constitutionnel comme en Afrique du Sud. Cuba allait vers l'apartheid.
Donc vous diriez ça, à ce point-là, d'apartheid avec une séparation.
Avec une séparation, les Noirs n'avaient pas le droit d'aller à la plage que fréquentaient les Blancs. Ils étaient chez eux, ils ne pouvaient pas aller à la plage. Les hôtels, même Joséphine Baker, quand elle a été à Cuba, a eu du mal à trouver une chambre dans un hôtel parce qu'elle était une femme noire. Ça vous dire à quel point le racisme était agressif. Je l'ai compris aussi quand je suis arrivé avec une femme blanche à Cuba, Edith. Ils ont appelé Edith à part, la police, pour lui dire « mais c'est un scandale, une fille bien comme elle qui arrive à Cuba avec un noir bolchevique par-dessus le marché ». Un haïtien, un sorcier. Pour les Cubains, un haïtien est un sorcier.
Donc vous avez toujours été considéré, vous, le...
Bon, alors moi...
L'étranger noir, cubain d'adoption quand même.
J'avais un statut spécial puisque j'étais journaliste, donc on me connaissait, j'écrivais des articles dans le journal de Castro révolution. Je parlais à la radio, je parlais à la télévision. Ils pensaient que j'étais un noir spécial. Quand je disais que j'étais haïtien, ils me disaient, mais c'est pas possible, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas haïtien, vous êtes un Français avec l'apparence d'un noir.
Pourquoi l'haïtien? Quelle idée se faisait-il de l'haïtien?
Parce que les haïtiens ont été des migrants à Cuba dans les années 20 et coupaient de la canne dans la région orientale de Cuba et avaient une très mauvaise réputation. C'était des vanupiés, des coupeurs de canne. Et quand je suis arrivé, quelques jours après mon arrivée, Fidel Castro, pour la première fois, a parlé de la question raciale à Cuba. C'était un tabou, on n'en parlait pas. Et il a pris le taureau par les cornes. Il a dénoncé le racisme avec une violence parce que on aurait tort de penser que Castro, en tant que blanc, pouvait avoir chez lui des tendances racistes, pour la bonne raison qu'il était né en Oriente, la région orientale de Cuba, sur une propriété qu'avait son père, qui était un grand propriétaire foncier, et il y avait des Haïtiens sur la propriété, et les garçons jouaient ensemble. Il me l'a rappelé, lui-même me l'a dit, qu'il aimait beaucoup Haïti, mais il ne pouvait pas aborder de plein fouet la question raciale. Après son fameux discours de mars 1959, des milliers de Cubains ont fui le pays. Ils ont dit « Fidel est en train de livrer nos femmes aux nègres. C'est ce qu'il est en train de faire. Il a dû battre en retraite, prendre des mesures antiracistes, des mesures démocratiques, sans en parler. » Vous comprenez, c'est ainsi que les Noirs ont eu accès à l'école, à l'enseignement supérieur, aux plages, aux hôtels, etc. Il a tout fait.
En tout cas, en ce début des années 60, vous, le poète haïtien, pas bolchevique, mais oui, communiste dans l'âme quand même, vous avez une idée qui vous monte à la tête comme de l'eau de vie, c'est votre expression tellement belle, celle de rejoindre les rangs de Fidel Castro.
Oui.
Par quel miracle de cette révolution cubaine vous arrivez à rencontrer le Che?
Ah bon, alors quand je suis arrivé en Haïti en 1957, j'étais tout de suite mis en résidence surveillée par Duvalier. Et un soir, j'ai ouvert la radio et j'ai entendu la radio des rebelles cubains dans la Sierra Maestra. Et depuis ce jour-là, chaque soir, j'écoutais ce qui se passait dans la guérilla des frères Castro et de Guevara à Cuba. Ils me sont devenus familiers et puis j'ai pensé que peut-être le mieux pour moi, c'est de rejoindre la guérilla cubaine. Alors, j'étais déterminé, j'étais un sportif. C'était pas un problème pour moi de traverser le détroit en bateau à voile une nuit. Quand j'ai dit ça à mes camarades, je faisais partie d'un réseau clandestin de jeunes communistes. Je leur ai dit, moi, je vais me battre aux côtés des Cubains. Ça me fera une expérience de guerre extraordinaire, d'autant plus que j'avais reçu un entraînement militaire au Brésil pendant mon séjour dans la clandestinité en tant que Walter Miranda. Ils m'ont traité d'aventuriste petit bourgeois.
Petit bourgeois?
Je me suis fait traiter d'aventuriste petit bourgeois parce qu'ils disent que ce sont des blancs qui se sont soulevés dans la Sierra Maestra. Castro est un blanc, Che Guevara est un blanc, un mulâtre à Cuba tellement raciste. Comment j'allais m'intégrer à un groupe de guérilla blanc?
Vous aviez tout le monde contre vous, en fait.
Tout le monde était contre moi. Quand j'ai dit ça à ma mère m'a dit, tes amis, ils sont des farceurs. Ils ne veulent pas faire la révolution, vraiment. Tu pars pour Cuba. Ma mère était d'accord que je parte pour Cuba.
La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado.
Je peux le dire aujourd'hui, j'ai eu le sentiment très vite d'être devenu l'ami de Che Guevara parce qu'il avait en face de lui un interlocuteur qui savait ce qu'était l'Argentine, qui savait ce qu'était le Chili, le Mexique ou le Guatemala. Donc un latino-américain dans le sens où il l'entendait lui-même puisqu'il en avait une vision profondément unitaire. C'est pour cela qu'il est devenu un Cubain de plus, un dirigeant de la révolution cubaine. Il avait en face de lui, à mon humble échelle, quelqu'un qui était un latino-américain et qui avait une expérience générale de la révolution et de la culture sur le sous-continent. Avec Che Guevara, nous ne sommes pas contentés de parler de guérilla et de politique, mais aussi de poésie.
Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Nada.
En sol majeur, toujours dans le sud de la France, à Lézignan-Corbières, chez vous, en lisant « Bonsoir tendresse », un extrait de ses mémoires, René de Pestre. On peut dire que 50 ans, plus de 50 ans après la disparition du Tché, vous vous souvenez non seulement de ces conversations poétiques, mais vous vous souvenez aussi de ces mots sur le combat de Toussaint Louverture.
Ah oui, quand je suis arrivé chez Guevara, il a commencé par regretter de n'avoir pas, lors de ses pérégrinations en Amérique du Sud, visité Haïti. Et il m'a parlé de Toussaint Louverture. Il m'a dit que Toussaint Louverture, c'est l'homme qui, le premier, a universalisé les droits de l'homme, qui a universalisé la pensée de la Révolution française. Napoléon aurait dû le comprendre, que Toussaint Louverture est un jacobin parmi les grands jacobins de l'époque. Malheureusement, il était sous l'influence de sa femme Joséphine de Beauharnais. Il ne comprenait pas qu'un noir puisse être un jacobin français. Parce que Toussaint Louverture ne voulait pas rompre avec la France. Déjà, il pensait établir une sorte de Commonwealth avec la France.
En tout cas, même si vous avez droit à l'éloge suprême... Oui. Dans ce Cuba des années 60, puisqu'on vous dit un jour, René de Pestre, tu es un Cubain de plus dans la Révolution, vous allez ressortir désenchanté de cette révolution castriste.
J'ai fini par être désenchanté au départ. Je me suis intégré complètement. Comme je parlais espagnol déjà, j'avais vécu au Chili, en Argentine et au Brésil aussi. Donc... Ils m'ont très bien accueilli, je me suis intégré à la presse. Donc, Guillén lui-même me disait, toi, eres un cubano más. Tu es un cubain de plus, quelqu'un qui s'est intégré totalement, comme je le fais, comme je l'ai fait en France, où je suis devenu vraiment un Français de plus. Donc, ça marchait. Mais, à un moment donné, Castro a voulu serrer le boulon des écrivains. Il a voulu s'en prendre à l'intelligentsia, il a limité l'activité des intellectuels, et il y a eu l'affaire Padilla, d'Héberto
grand
Padilla,
poète,
grand poète, qui est le meilleur de sa génération, qui critiquait ouvertement ce qui n'allait pas à Cuba, et on l'a jeté en prison, on l'a torturé, on l'a traité de la pire façon, et un soir, le gouvernement a organisé une assemblée d'écrivains pour condamner Padilla. Donc, j'ai pris fait et cause pour Padilla.
Vous avez été le seul ?
Le seul. Après, la presse cubaine a tout fait pour qu'on ne sache pas que j'avais pris la parole. Castro et son frère Raoul suivaient la réunion à travers un circuit clandestin de télévision. Ils suivaient la réunion et envoyaient des messages pour orienter la réunion. C'était quelque chose d'incroyable. Donc, quand ils m'ont vu prendre la parole, ils m'ont écouté, ils ont pensé que j'étais cinglé. C'était douloureux pour eux aussi, hein, parce qu'ils m'estimaient, Castro me connaissait, ils m'estimaient, son frère Raoul également, comme le Che Guevara, dont j'étais très proche, n'est-ce pas? À partir de ce moment-là, j'étais écarté de tout.
En sol majeur, @rfi.fr.
L'écarté de tous, René de Pestre, le prince du Pas-de-Côté donc, eh bien je vous propose de le retrouver demain pour tout un autre week-end poétique et engagé entre Haïti et Lézignan-Corbières dans le sud de la France. En sol majeur, avec Facebook et en podcast sur Pure Radio, Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain donc à la Villa Adriana à partir de 14h10, temps universel.